Je voudrais prendre un texte, si vous êtes d'accord, qui va servir d'introduction, et je me permettrai de poser quelques questions ensuite. Mais on va prendre d'abord notre Bible. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3 et suivant. Éphésiens, chapitre 1er. Ça va, vous l'avez ? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Je répète cette phrase, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est un monument que l'apôtre Paul vient d'écrire. Quelqu'un a dit, l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est une cathédrale. Et c'est vrai qu'il y a énormément de richesses avec un peut-être ce leitmotiv qui revient en lui, en lui, en lui. Mais ce n'est pas tellement ce qui me préoccupe ce matin d'abord. Je vous ai dit que j'allais venir avec quelques questions. J'aurai deux questions et deux sous-questions. Vous allez me dire, pourvu qu'elle ne soit pas indiscrète. Soyons clairs, une question n'est jamais indiscrète. C'est la réponse qui l'est. Alors, vous ne me répondez pas. Ça ne me regarde pas. La réponse, c'est pour vous, c'est personnel. Parce que, voyez-vous, en arrivant ce matin, c'est vrai qu'il y a toujours un moment de convivialité, on se salue, on est content d'être là, on s'embrasse, c'est bien, content de te voir. Il y a ce moment qui est là où on se sent accueilli. J'espère que vous vous êtes senti accueilli. Et puis, on entre dans ce temple, et c'est propre. C'est un beau bâtiment, il est propre. Vous savez, honnêtement, c'est pas le cas partout, hein. Vous avez parfois des lieux de culte, il n'y avait personne pour nettoyer. C'est propre, merci pour l'accueil, merci pour le nettoyage. Puis on est un frère qui préside et on sent qu'il y a une préparation là derrière. Puis les chants sont prêts, ça a remarqué, chacun savait ce qu'il avait à faire. La technique suit, aussi bien les micros, je me souviens d'un culte. Ah, mes amis, je disais une chose, le micro disait autre chose. Parce que c'était pénible. À un certain moment, l'ancien qui présidait a tout arrêté en disant « Continuez sans. Et c'est vrai que c'était tellement plus facile de ne pas avoir ces bruits, ces retours, ces craquements. Mais bon, c'est pas le cas partout où ça marche bien. Et puis nous avons les champs. C'est quand même fabuleux cette technologie, hein. Hop, on imprime un champ, on imprime un texte, vous l'avez, les images sont magnifiques. C'est bon tout cela. Mais c'est ici où on a de la raison d'être reconnaissant. Merci pour les instruments, pour la technique, merci pour les micros, merci pour tout ce qui fonctionne. C'est fabuleux cela. On ne se rend pas compte, ça nous semble tellement normal que ça marche, que ce soit là, que ce soit fait, qu'on oublie qu'il y a des gens qui ont préparé, qui ont travaillé. La Sainte-Seine, ça n'enlève rien, mais il a fallu préparer ce moment de Sainte-Seine. Il a fallu l'introduire. C'est extraordinaire quand on y pense, tout ce qui se fait. Mais je vous pose alors ma première question. Nous sommes venus ce matin au culte. Est-ce que vous croyez que Dieu va accepter ce culte ? Aïe, aïe, aïe. Et s'il l'accepte ? Première sous-question, sur quelle base est-ce qu'il l'accepte ? Parce que nous sommes venus pour rendre un culte. Je regarde mon vieux dictionnaire Larousse. Depuis le temps que je l'ai, ça devrait être la grise maintenant. Mais enfin, mon vieux dictionnaire Larousse, et je regarde culte. Deux points. Hommage rendu à la divinité. C'est général, c'est très large, mais nous sommes venus pour rendre hommage à la divinité, pour rendre hommage à Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que Dieu l'accepte ? Et j'en arrive alors à une seconde question, si vous le permettez, un peu plus précise. Même si vous me dites, oui, Dieu va accepter ce culte, est-ce que Dieu vous accepte, vous, pour le culte ? Est-ce que vous croyez que vous êtes accepté par Dieu ? Vous redimaginez-vous ? Et si vous croyez que Dieu vous accepte pour le culte, si Dieu m'accepte pour le culte, sur quelle base est-ce qu'il le fait ? Quand on pense à cela, on réfléchit, on se dit, mais c'est vrai, qu'est-ce que je suis venu faire ce matin ? Je suis venu pour rendre un culte, mais ce n'est pas suffisant. Je peux donner quelque chose. J'ai vu une belle cravate, je l'ai offerte à ma femme pour son anniversaire. Ça ne va pas lui faire plaisir, c'est pas ce qu'elle attend. Ça me plaît moi, est-ce que ça lui plaît à elle ? Est-ce que le culte que j'offre, ça plaît à Dieu ? Sur quelle base ? Alors j'aimerais tout de suite vous rassurer. J'aimerais mettre votre cœur à l'aise ce matin. J'aimerais vous dire, tout croyant dont la foi repose sur Jésus-Christ est accepté par le Père. Je répète cela. Tout croyant dont la foi repose sur Jésus est accepté par le Père. Vous pouvez, si vous êtes en Jésus, être certain que Dieu accepte le culte. Si nous sommes en Jésus, non seulement Dieu accepte le culte, mais Dieu nous accepte comme nous sommes, parce que nous sommes en Christ. En Jésus, nous avons établi et reconnu la paix. Une paix a été conclue. Mon frère a commencé sa lecture avec Romains 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix. Dieu nous donne la paix par Jésus. Il est le fondement de notre paix. Colossiens, lorsque Paul leur écrit, il leur dit, il a fait la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous sommes réconciliés avec Dieu. La paix a été conclue. Romains chapitre 5, nous l'avons lu, quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous pouvons dire à Dieu, Papa, Père, Abba, Mais si nous disons Père, ça veut dire nous sommes ses enfants. Nous sommes acceptés, nous sommes reçus. Le monde ne nous rejette, le monde ne nous veut pas, mais nous avons été choisis et nous sommes précieux devant Dieu et à ses yeux. Nous sommes acceptés. Dieu nous accepte tout simplement parce qu'il nous voit en Jésus. Je prends une image, c'est une image qui est toujours très simple, mais qui me semble être claire. Imaginez, ceci est votre vie. Ceci est le Seigneur Jésus. Vous avez vécu votre vie, indépendamment de Jésus, mais un jour vous vous êtes placé en Christ, et Christ s'est placé en vous. Où est la feuille? Elle est dans ma Bible. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes en Christ, là où Christ est, vous êtes. Vous êtes inclus en Jésus-Christ. Et Christ est devant le Père. Où est-ce que nous sommes? Devant le Père. Christ est accepté, il est le bien-aimé. En dans le bien-aimé. Et Dieu nous voit dans le bien-aimé, et en lui, nous sommes acceptés, nous sommes reçus, nous sommes entendus. C'est quand même extraordinaire quand on y pense, n'est-ce pas? Et non seulement cela, mais nous allons arriver alors à toucher un autre problème. Parce que vous allez me dire, oui, c'est vrai, je Père m'accepte parce qu'il me voit en Jésus. Mais je suis conscient aussi que malgré et depuis ma conversion, qu'est-ce que je pêche? Qu'est-ce que je pêche encore? Je suis encore bien pécheur. Si vous aviez vu cette semaine comme je l'ai vécu, j'ai quand même dit des choses que je n'aurais jamais dû dire. J'ai fait des choses dont j'ai honte maintenant. Ma vie est loin d'être ce qu'elle devrait être, ce qu'elle-même elle paraît. Si je regarde, cette semaine, c'était pas brillant ma vie chrétienne. Et je regarde ma vie, je me dis, mais est-ce que Dieu peut encore m'accepter malgré tout? Est-ce que Dieu peut encore m'accepter? Et parfois, nous devons nous poser ce genre de questions, nous remettre au point, remettre notre horloge à l'heure. Je n'ai pas été comme je devais. Et si même je crois avoir été comme je devais, demandez à ma femme, elle vous dira ce qui n'a pas été. Il y aura toujours quelqu'un à côté pour dire que c'était, il y avait du raté, il y avait un manquement, immanquablement. Dieu peut-il encore nous accepter? Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Vous avez changé, mais Dieu n'a pas changé, lui. Le péché est entré en vous, mais il n'est pas entré en lui. Dieu n'a rien changé du tout. Vous avez pris conscience que vous ne marchiez pas selon l'Esprit de Dieu, que vous marchiez selon la chair. Vous avez pris conscience de cela. Alors ce qui est important maintenant, c'est quoi? C'est d'être réintégré dans la communion avec le Seigneur. C'est de retrouver cette communion avec lui, cette communion qui a été brisée par le péché. Mais vous êtes accepté, Dieu vous aime. Ce n'est pas, on peut avoir des enfants qui désobéissent, ce sont quand même des enfants. Une chose qu'il ne faut jamais dire à des enfants, hein, si t'es difficile, le Seigneur ne t'aime pas. Mes amis, il ne faut jamais dire ça à un enfant. Le Seigneur n'aime pas ce que l'enfant fait, on est d'accord, mais l'enfant est aimé. Dieu n'aime pas ce que nous faisons, mais il nous aime en tant que personne. Et quand on fait un examen de soi-même, on se rend compte, c'est vrai, j'ai péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut revenir au sacrifice. C'est la Sainte Cène qui nous rappelle le sang qui a été répandu. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Nous sommes pécheurs, mais nous avons un recours, nous avons un avocat. Il y a quelqu'un qui est là. Dieu a fait la réconciliation. Il n'y reviendra pas, lui. Il ne remet pas en question, j'ai décidé que, puis, non, maintenant je vais changer d'avis, oh, celui-là est tellement difficile que... Non, Dieu ne change pas. Certes, il va juger la chair, ça il va le faire. Et c'est pourquoi il est important de régler le problème de notre péché rapidement. Si nous le réglons nous-mêmes, Dieu ne devra pas le faire. Mais il faut le régler honnêtement. Nous sommes dans le Fils bien-aimé. Ce matin, si je devais comparer mon petit partage à un repas, je vous dirais que je suis venu avec un œuf. Un œuf ? Oui. Je suis venu avec un œuf et c'est tout simple. 1 Corinthiens 1:9. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à quoi ? À la communion de son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Le péché qui est en nous a brisé cette communion, mais nous voulons la retrouver, cette communion avec le Seigneur. Et il faut donc régler ce péché rapidement. Oui, mais est-ce que Dieu va vraiment le régler ? Plus de temps. Et je recommence, et je pêche encore, et je prends la décision de, et ça recommence encore. Nous connaissons cela, n'est-ce pas ? Darby a écrit ceci, « Quand le Saint-Esprit raisonne avec l'homme, il ne tient pas compte de ce que l'homme est pour Dieu, mais de ce que Dieu est pour l'homme. » Nous inversons le problème. Nous partons de nous-mêmes pour arriver vers Dieu, alors que nous devrions partir de Dieu pour arriver vers nous. Vous voyez, le grand problème, c'est que nous nous basons comme critère. Mais le critère, c'est Dieu. Nous partons de nous-mêmes. Et si nous partons de nous-mêmes, on se pose la question, est-ce que Dieu nous accepte ? Partez de Dieu. Et si vous partez de Dieu, de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a fait, vous avez une base, une certitude. Vous êtes en train d'avancer. Et le Saint-Esprit nous amène à découvrir qui est Dieu. Nous amène à découvrir ce que Dieu va provoquer dans nos vies. Et Dieu va provoquer ce changement. Et une des premières choses qu'il fait, c'est de mettre en évidence le péché. Avant d'être chrétien, vous aviez moins de problèmes avec le péché. Ça ne nous gênait pas. On pouvait pécher, pas de problème. Maintenant qu'on est chrétien, évidemment, Seigneur met le doigt sur nos plaies, il met le doigt, il dit, là, ça ne va pas. Puis, quand on a fini là, là, ça ne va pas. Et Dieu nous travaille tout doucement, on en arrive alors à détester le péché. On en arrive à prendre conscience, comme l'apôtre Paul, misérable que je suis, je fais le mal que je ne veux pas faire, je ne fais pas le bien, le péché là. Mais Dieu nous travaille, pourquoi ? Pour aller au fond du problème. Il ne va pas simplement résoudre le problème en surface, il va résoudre le problème dans le fond de notre vie. Et c'est pour cela qu'il nous secoue, qu'il nous travaille. Et quand on en est là, alors il y a, Seigneur, où est-ce que j'en suis ? Je peux compter sur la bonté de Dieu. Je peux compter sur la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, c'est de réaliser, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? La grâce de Dieu, c'est d'avancer. Oui, mais pour découvrir cette grâce, qu'est-ce qu'il faut faire ? Régler la question du péché. Et comment est-ce que je peux régler la question du péché ? Mais vous connaissez 1 Jean 1:9. Vous voyez, 1:9, ça fait déjà 2 œufs. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifié. Mais encore faut-il que nous confessions nos péchés. Et c'est là la difficulté. Confesser son péché, c'est de voir les choses comme Dieu les voit. C'est de reconnaître les choses telles que Dieu les montre. C'est tellement facile. Reconnaissons-le, les chrétiens sont quand même parfois hypocrites. Hein. Seigneur, je suis un pécheur, mais tout le monde est pécheur. Nous sommes tous des pécheurs, Seigneur. Tu vois, pardonne nos péchés. On se met dans la masse, n'est-ce pas ? On se cache un petit peu, on se camoufle derrière tout le monde. Confesser, c'est reconnaître et mettre le nom sur le péché. Seigneur, je te demande pardon parce que je suis un voleur. Seigneur, j'ai menti et je te demande pardon parce que je reconnais que je suis un menteur. Il faut mettre le doigt sur la plaie. Confesser son péché, c'est de voir les choses comme Dieu les voit. C'est d'admettre, Seigneur, c'est toi qui as raison quand tu dis cela. Et c'est très difficile, n'est-ce pas? On emploie le mot péché d'une manière très vague. Mettez un nom sur le péché. Confessez ce péché. Et ce n'est qu'une étape. Il y en a une autre. J'aurais voulu que vous connaissiez ma marraine. Quand je suis venu au monde, mes parents m'ont affublé d'une marraine très brave. Famille protestante, j'ai une bonne marraine, grande catholique. Ils ont choisi plus la famille que l'aspect spirituel à ce moment-là. Bon, une très brave femme, une borraine, une brave borraine. Juste un problème, comme c'était une grande catholique, elle a la messe tous les dimanches. Et quand je vous dis qu'elle a la messe, vous pouviez l'inviter pour dîner, elle vous disait, d'accord, je viens, mais après la messe. Hein. Ça, c'était clair que dimanche matin, son mari, il allait boire son verre et jouer aux cartes, mais elle, la messe. Une femme formidable, très gentille, elle était généreuse, elle avait beaucoup de qualités. Mais on lui avait trouvé un défaut. Qu'est-ce qu'elle jurait? Et alors, autant le dimanche, elle savait réciter son chapelet, en autre temps, il y avait le chapelet de Juron, hein, parce que quand ça commençait, ça... Aïe, aïe, aïe. Brave femme! Mais ça jurait, ça jurait, ça jurait. Quand je suis devenu chrétien, ça me chiffonnait, et je lui ai dit, écoute, ma reine, moi j'ai un problème, parce que t'es là que tu jures, et voilà, tu sais, Dieu, il dit que... Je suis allé de ma petite prédication, et cette brave femme m'a regardé en disant, t'en fais pas, je vais confesser dimanche. Vous voyez comment le problème est résolu? Je pêche, mais je vais à confesser dimanche. Je pêche, j'irai à confesser dimanche. La Bible dit dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est facile de dire, Seigneur, je suis un pécheur, je suis un menteur, et recommencer à mentir après. Seigneur, aide-moi à ne plus mentir. Ah. Seigneur, il y a ce péché dans ma vie qui me tient, qui me colle. Et je te prie, je te confesse ce péché-là, et je m'en débarrasse. Je le dépose à tes pieds. Je me décharge de ce péché. C'est tout à fait autre chose, n'est-ce pas? La confession, c'est cela. Et si nous confessons nos péchés, si nous sommes prêts à les abandonner, le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Ben oui, mais est-ce que vous savez si, comme je suis, cessez de partir de vous-même pour arriver à Dieu? Tout va bien, vous êtes content, Dieu semble vous bénir, ça va bien, vous êtes bien, hop, ça va. Mais voilà, aujourd'hui, demain, je me lève du pied gauche et je me demande si Dieu m'aime. Oui, après tout ce que je fais pour Dieu, regardez ce qui me tombe dessus. Vous êtes parti de vous-même. Et entre nous, soit dit, j'ouvre une parenthèse. Moi, j'aime bien les gens qui disent « je me suis levé du pied gauche ». Ça vous arrive? Alors, je regarde vos jambes rapidement. Vous n'êtes pas unijambiste. Vous avez deux jambes. Vous aviez le choix de vous lever du pied droit, non? Pourquoi faut-il se lever du pied gauche? Quand vous avez le choix, honnêtement, c'est pas très malin de se lever du pied gauche quand on a deux jambes et qu'on peut dire « je me lève du pied droit ». Mais vous voyez, parfois, on a ce sentiment que, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu pense à moi? Les choses ne se déroulent pas comme on voudrait. Alors on trébuche. Et on se dit, oui, Dieu ne m'aime plus. Dieu ne m'accepte plus. Combien de chrétiens se laissent piéger comme ça, en s'imaginant que, parce que ça ne va pas, parce qu'il arrive une contrariété, Dieu ne les aime plus. Dieu nous a acceptés en son Fils. Il n'y reviendra pas. Et son acceptation, elle est due à sa grâce et à sa grâce seule. Dieu ne nous a pas acceptés à l'essai en disant, bon, on va voir avec lui si ça marche. Hein. Et puis si ça ne marche pas, ben, on va le liquider ou bien... Oh, non, Dieu nous a acceptés. cessez de penser que Dieu vous accepte parce que vous faites un effort. Cessez de penser que Dieu ne vous accepte pas parce que vous ne faites pas tel ou tel effort. Vous avez été accepté en Christ, cette grâce ne vous sera pas retirée. Mais pas du tout. La vie chrétienne, elle a des secrets. Et un des secrets de la vie chrétienne, c'est « je consens à être aimé de Dieu tout en sachant que je ne mérite pas. » Je suis indigne de son amour, mais Dieu m'aime. Et parce que je sais que Dieu m'aime, je vais faire attention aux engagements que je prends. Je vais faire attention aux résolutions que je prends. C'est pas mauvais de prendre, de s'engager. Mais quand on s'engage, il faut tenir. Et faites attention, la Bible dit ceci, c'est dans Deutéronome 23-21. « Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. » Alors quand on prend un engagement, quand on fait un vœu, on le tient. Mais non seulement on le tient, mais encore... je fais attention quand je m'engage, parce que c'est parfois plus compter sur soi que sur Dieu. Il y a un danger. Je m'engage en comptant sur le secours de Dieu. Mais parfois nos engagements, c'est « Ah, je suis Seigneur, je vais y aller, hein !» Et on compte sur soi et on cesse de regarder vers la puissance et la grâce de Dieu. Attention. Il faut s'attendre à être béni. Même si on a conscience que nous sommes indignes. Je ne sais pas qui est digne de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas dignes, reconnaissons-le. Mais nous sommes conscients aussi que Dieu veut nous bénir et nous attendons sa bénédiction. Oui, mais vous savez, dans ma vie chrétienne, il y a quand même des coups durs, il y a quand même accepté la discipline de Dieu. Considérez que cette discipline... c'est la correction d'un Dieu qui vous aime, qui vous corrige. Pourquoi ? Parce qu'il vous aime. Le grand problème, vous avez déjà remarqué les petits-enfants, quand on leur parle, qu'est-ce qu'ils vous disent le plus souvent ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est le plus souvent, c'est ce qu'ils entendent. Hein ? Non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Pourquoi est-ce qu'on fait cela ? Pour protéger l'enfant, pour le protéger, pour l'éduquer. Et Dieu nous dira plus souvent non que oui. Parce que justement, il nous aime, parce qu'il veut nous corriger, parce qu'il dit « non, non, ça ne va pas ». Alors, il est bon de résoudre certains problèmes. Je suis certain que, comme chrétien, vous avez certains problèmes. Laissez-moi vous en citer trois. Un, vous êtes déçu de vous-même. Ça vous arrive, hein ? J'espérais être plus fort, j'espérais être meilleur. J'espérais que j'en sortirais... vous êtes déçu de vous-même. Deuxième problème que nous rencontrons, c'est le découragement. On essaie, ça ne va pas, on essaie encore. On n'y arrive pas. Et le troisième problème, c'est l'orgueil. Savez-vous pourquoi vous êtes déçu de vous-même ? Parce que vous avez trop confiance en vous et pas assez dans le Seigneur. C'est pas plus difficile que ça. Je suis déçu, comptez sur moi. Immanquablement, on se casse la figure. Mais je ne compte plus sur moi, parce que je sais que je n'y arriverai pas, je ne serai plus déçu de moi-même. Je compte sur la grâce de Dieu. Je compte sur la puissance de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Je suis découragé. Mais pourquoi est-ce que je suis découragé ? Parce que je manque de foi. Je suis découragé parce que j'oublie que l'intention de Dieu, c'est de me conduire, c'est de me bénir. L'intention de Dieu, c'est ce désir de me voir avancer. Et le chemin par lequel il me fait passer n'est pas le chemin par lequel moi j'aurais passé. À ce moment-là, on est découragé. Ne soyez pas découragé. Regardez vers ce que Christ accomplit. Il a un plan. Il accomplit son plan. Il a le dernier mot. Nous l'avons chanté. Il est le roi des rois. Pourquoi est-ce qu'on se décourage ? Puis nous avons un orgueil parfois qui est là, l'orgueil qui nous fait croire que dans le fond on est quand même meilleur que les autres. Hein. On est quand même, c'est vrai quand on compare aux autres, on est quand même mieux. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui est moins bien que nous, immanquablement. Alors, Seigneur, c'est quand même formidable, hein, comme ce pharisien. Seigneur, je fais ceci, je fais cela, tu devrais quand même être fier d'avoir un type comme moi dans ton église. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi en tires-tu orgueil? C'est un don de la grâce de Dieu. Tu n'as aucune position privilégiée devant Dieu. Tu es dans le bien-aimé, mais ton frère et ta sœur sont aussi dans le bien-aimé. Il n'y a pas de... Dieu n'a pas de chouchou. Ou nous sommes tous ses chouchous. Quand on regarde bien, finalement, vous savez, le problème des chrétiens, ce n'est pas un problème de piété. La preuve, c'est que nous sommes là ce matin. On aurait pu faire la grâce matinée, on aurait pu profiter d'une autre journée, de quelque chose de différent. Mais nous sommes venus ce matin, avec notre Bible, nous avons chanté. Notre problème n'est pas un problème de piété, notre problème c'est un problème de foi. Nous manquons de foi dans l'amour de Dieu. Nous manquons de foi dans la grâce de Dieu. Nous manquons de foi, alors nous pensons que nous devons être mieux pour être béni. Et on n'est pas béni parce qu'on est mieux, on est béni parce que Dieu nous fait grâce. On est béni parce qu'il nous aime. Et c'est là où on arrive alors à la grande différence entre la grâce et la loi. La loi, c'est « je dois mériter mes bénédictions ». Quand je sentirai mieux, j'irai vers Dieu. Ça, c'est la loi. Et la loi, elle nous fait passer, elle montre les bénédictions qui sont dépendantes de ce qu'on fait. Tandis que la grâce, elle part de Dieu. Et la grâce qui part de Dieu, elle dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La piété, c'est le résultat. Mais nous avons déjà reçu les bénédictions. Vous savez, quand on vit sous la loi, on vit dans la crainte. Et beaucoup de religions aujourd'hui font marcher les gens par la crainte. Fais ceci, t'iras en enfer. Fais cela, t'iras. Voilà, c'est la crainte. Et on maintient les gens pour maintenir dans une discipline, n'est-ce pas? Pour maintenir les gens pas. Tandis que la grâce, mais c'est tout le contraire. La grâce, c'est l'amour. La crainte, elle va créer le découragement, la torpeur. La loi, elle va provoquer tout cela. Tandis que l'amour de Dieu, ça va nous épanouir. Ça va nous développer. La crainte, c'est « il faut que je fasse les choses. Hein. Si je ne les fais pas, qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» On travaille comme des mercenaires, on travaille comme des esclaves. Mais la grâce, elle me fait travailler comme un fils. Je travaille pour Dieu parce que je l'aime. Je travaille pour Dieu parce que j'ai envie de lui faire plaisir. J'ai envie de lui réjouir. Alors, les motivations sont tout à fait différentes. Mais il faut pour cela partir non pas de nos efforts, de nous-mêmes, mais de la grâce de Dieu qui nous accepte dans le bien-aimé. Parce que Dieu poursuit un plan. Et vous connaissez le but de Dieu ? Savez-vous quelle est l'ambition? Moi, j'aime bien les parents. Ils disent, ah, j'aimerais une femme qui avait deux petits bouts, comme ça, qui commence à trotter. Et une voisine qui dit, qu'est-ce que vous allez en faire? Ah, celui-là, c'est le médecin, celui-là, c'est l'avocat. On a décidé pour eux, n'est-ce pas? On a une grande ambition hein, pour les enfants. Formidable, on va devenir ceci. Bien, Dieu a une ambition pour ses enfants, pour ce que nous sommes, que nous devenions semblables à son Fils, Jésus. Il nous a prédestinés dans son amour à être semblables à son Fils Jésus-Christ. Et Dieu nous place dans son Fils, il nous accepte et nous travaille pour arriver à ce but, à son ambition pour vous et pour moi. Alors il faudrait peut-être, frères et sœurs, cesser de regarder vers nous pour regarder et partir de lui. Amen.